Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Je vous invite à lire les trigger warnings qui accompagnent cet épisode avant de faire la connaissance de Axel. Axel fait partie de ceux et celles qui n'ont pas eu toutes les meilleures cartes dès le départ. Élevé seul par sa mère, il subit à l'âge de
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
6 ans des attouchements par un membre de son entourage proche, puis du harcèlement scolaire à l'adolescence qui le poussera jusqu'à une tentative de suicide, il se retrouve à 18 ans dans une relation sentimentale toxique, tout en vivant en parallèle un drame familial terrible. Et pourtant, c'est un entretien solaire, touchant et émouvant que vous propose Axel, un jeune homme doux et d'une grande bonté. Sans phare, il vous partage son parcours intime et ses questionnements à tout juste 21 ans. De ses premiers souvenirs masturbatoires à 10 ans, de la prise de conscience de sa différence due à une prostatectomie complète, de sa première fois à 13 ans au collège, puis des orgies avec les copains, jusqu'à des partenaires et histoires qui vont lui laisser des empreintes. Bref, c'est un épisode dense. Axel confie ses fantasmes dits honteux, sa récente découverte des sextoys pour hommes, ou encore les pratiques telles que le shibari ou le BDSM qu'il a envie d'expérimenter. Ce qui est à retenir de cet échange, à mon sens, c'est cette belle énergie et envie de grandir en phase avec l'homme qu'il devient, de son envie d'étoffer ses pratiques et de vivre une sexualité heureuse, consentie et en toute bienfaisance. Je vous souhaite une très belle écoute. Oh, la synchronisation parfaite. Je vais faire de l'ASMR. Non, je rigole. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Axel, 21 ans. Axel, tu n'es pas en face de moi, reconfinement oblige. Du coup, on va quand même faire cet entretien qu'on a décidé un peu à l'arrache et je t'en remercie parce que tu as répondu présent. Axel, toi qui connais le podcast et qui est un big fan de Sam, on lui passe le bonjour. Comment ça va déjà, Axel ?
Ben, ça va bien, très bien.
Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Alors, j'y ai réfléchi pas mal de fois en écoutant le podcast, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, mon premier souvenir lié à la sexualité, bah, c'était avec une serviette.
Une serviette.
Ouais, ouais, chez ma grand-mère, à 7 ans, je crois, en m'essuyant, et je me suis rendu compte que ça frottait, qu'il y avait une friction, que c'est là où je me suis rendu compte que, enfin, le plaisir, en fait, enfin, surtout au niveau du pénis, le toucher, tout ça, et c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment-là où ça a un peu éveillé un peu tout, en fait. Cette prise de conscience de mon corps.
Tu sortais quoi de la douche et c'est en t'essuyant?
Ouais, 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 comme un enfant qui fait ses premières douches tout seul, en m'essuyant, voilà, c'est arrivé, quoi.
Ok, très bien. Est-ce qu'on parlait librement de sexualité chez toi?
Ouais, ouais, assez, ouais. Mais d'une manière libérée, parce que j'ai vécu qu'avec ma mère et ma sœur. Mm-hmm. Mais ma mère, elle en parlait toujours un peu en rigolant, pas toujours très sérieux. Elle me racontait un peu d'histoires d'amour. C'est toujours très très présent chez ma mère et elle en parlait souvent. Comme elle était mère célibataire, l'amour c'était, il y avait une grande place pour ça dans ma famille, surtout avec elle. Elle m'a toujours un peu donné quelques conseils, mais des conseils basiques, protège-toi, tout ça, mais. Enfin, j'ai une petite anecdote, par exemple, je revenais de la pharmacie avec ma copine et elle me disait « Ouais, tu vas où ?» J'ai dit « Tu vas avoir un petit enfant ?» Elle m'a dit « Non ». J'ai dit « Ok, voilà ». C'est toujours des trucs comme ça, et après, elle rigolait. Ça glissait, quoi, il n'y a jamais eu de tabou. Mais c'est vraiment sa manière, en fait, un peu rigolote d'en parler, qui a délié un peu nos langues, quoi.
Ouais, mais c'est pas mal. Et avec ta sœur, c'était un sujet dont vous parliez ?
Non, j'ai jamais été très très proche d'elle. Mm-hmm. Plus maintenant, mais non, pas de discussion autour de ça.
Ok. Donc, à 7 ans, tu commences un peu à découvrir ton corps. Comment se passe l'entrée dans la puberté ?
C'était spécial, hein. Surtout de voir, c'est surtout au niveau des poils, hein. De la moustache, genre j'ai de la moustache très très vite. Ah. Je crois à 11 ans j'avais déjà un énorme duvet, hyper voyant en fait.
T'es brun, t'es très brun.
Et Ouais, je suis très très brun et j'ai eu de la barbe très très vite. Okay. Genre à 15 ans, j'avais déjà une superbe moustache bien épaisse, quoi. Enfin,
qui, je sais pas dire, plein d'hommes imberbes hein, qui adoreraient
c'est
avoir
ça.
Ce genre de pilosité.
Et oui, et moi j'adorais avoir une vraie barbe complète, mais on peut pas tout avoir dans la
On
vie.
peut pas tout avoir.
Mais bon, c'est sûr. Et ouais, il y a les poils. Et aussi, oh, les poils. Ouais, sur, bah, c'est ça, les poils pubiens. Ça a été un choc. Hein.
C'était un choc parce
Un
que
vrai choc.
ça arrivait tôt.
C'est arrivé tôt, ouais, à 10 ans, j'avais déjà beaucoup de poils
D'accord.
au niveau
Au
du
pubis,
pénis.
ouais.
Ouais, c'est ça. Et ah ouais, j'étais pas prêt. Hein. J'étais pas prêt, ça me grattait, c'était relou. On m'avait dit de mettre du yaourt dessus. Je mettais du yaourt
Du
sur mes
yaourt.
testicules. Enfin, ouais, je sais. Je sais une amie de ma sixième qui avait dit ça. J'ai mis du yaourt sur mes testicules. Enfin, c'était ça méritait. C'était n'importe quoi. Enfin, faut pas faire ça. Faut pas
Non,
faire ça quand les poils
voilà,
poussent.
ne mettez pas de yaourt sur votre pénis et vos testicules, hein, ça ne marche
Non,
pas.
non. Ça ne marche pas, pas du tout, ouais.
C'est drôle. Et tu en parles avec tes copains d'école?
Ouais, c'est le début, enfin, oh, même avant, vers, ouais, 8-9 ans, on parlait déjà, bah, des filles, hein, beaucoup, ouais. J'ai toujours un bon rapport avec, enfin, plus vers mon adolescence, non, petit, j'avais pas trop un très bon rapport avec les filles, mais ça me fascinait, quoi. De voir le corps changer, de voir mon corps changer, toujours les yeux écarquillés,
C'était
un
quoi
peu émerveillé en fait.
justement les sentiments qui accompagnent ça? Est-ce que c'est, je sais pas, l'attente? Est-ce que tu es dans la précipitation? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu t'en rappelles un peu des émotions?
Ouais, non, ça me stimule.
Ouais.
Ça. Je trouve ça beau, enfin, je découvre le corps de la femme qui est en train de changer, d'évoluer comme moi j'évolue. Et je sais pas, j'ai des souvenirs de grands yeux écarquillés, en mode, waouh, genre, qu'est-ce que c'est, genre, enfin, comme un enfant, quoi, mais un truc assez beau, assez joli.
Et donc, du coup, t'es 8-9 ans, tu commences à parler de ça avec les copains, il y a l'arrivée au collège, ce corps qui change. Comment tu vas nourrir un peu ton imaginaire? Est-ce que avec les copains, vous parlez des filles? Est-ce que vous allez commencer un peu, parce que tu es de cette génération-là, comme tu as 21 ans, Internet est déjà à la maison?
Ah ben le c'est le porno. Le
Ouais.
porno, il arrivait très très vite dans ma vie.
T'avais quel âge, tu t'en rappelles?
Ouais, je me rappelle hein, j'avais 10 ans.
10 ans.
J'étais ouais, chez mon meilleur ami et je voyais ça me trottait déjà un peu dans la tête, il m'a dit "Ouais, faut que je te montre un truc." Et on est allé sur un site porno et on s'est masturbé direct.
À 10 ans.
À 10 ans, ouais.
Donc, votre corps, enfin, toi, ton corps avait été déjà rentré dans la puberté. Et
Ouais.
c'est instinctif, tu sais comment ça se passe? Ou comment
Non,
tu.
pas trop justement parce qu'en plus je suis circoncisé
Ouais.
médicalement. Du coup, déjà j'avais ce
Tu as eu cette
rapport,
circoncision petit?
ouais, à 3 ans, ouais.
D'accord.
Et
Donc
déjà dans
médicalement, ça veut
les.
dire, pardon, c'est juste pour préciser, ça veut dire que ça n'a pas, c'est pas du tout un choix religieux ou culturel.
Non, c'est pas du tout un choix religieux, c'est un choix médical. Et déjà, ouais, la piscine, quand on change, quand on est petit, de voir les autres pénis des garçons pas comme le mien, et de pas en voir comme moi, ça me perturbait, quoi.
D'accord, et on
Bah,
t'a,
je
t'a, t'as
comprenais
pas,
pas.
t'avais pas dans ta classe des petits garçons qui, bah justement par choix des parents culturels ou religieux, avaient circoncis leur petit garçon?
Si, mais sauf que quand il se changeait, lui, il se montrait pas, du coup,
D'accord.
il n'y a jamais eu de.
De comparaison.
D'autres pénis circoncis, ouais, d'autres comparaisons que j'ai pu voir, quoi.
Ok. Ça t'a perturbé, ça, quand t'étais adolescent?
Ouais, un peu, parce que même vers, ben, ouais, 10 ans, ça commence à parler de masturbation. Sauf que, ben, un pénis comme le mien, la peau, c'est différent, ça glisse pas, j'ai plus de frein. Je me demandais, mais comment ça marche? Pourquoi moi j'ai pas ça? Je capte avec le mouvement de la main, enfin, le signe. Pour la masturbation classique, quoi. Et moi, je me dis, mais moi, ça glisse pas, quoi. Et je sais pas comment ben, la salive, comme on pourrait faire avec du lubrifiant, et j'ai capté ça, je sais pas, instinctivement, ça m'est
Ouais, je
venu.
pense qu'il y a une espèce de truc un peu instinctif qui se met en place.
Ouais, non, mais c'est exactement ça, ouais, c'est ça. Et là, j'ai capté, et là, j'étais à waouh, j'ai réussi, quoi.
Ce que tu dis est très juste. On n'a pas forcément cette réflexion, mais c'est vrai qu'un pénis circoncis a plus effectivement le prépuce sur le gland qui fait ce mouvement de va-et-vient qui décalote. Donc ouais, c'est vrai que ta réflexion, elle est somme toute très, très logique, mais comme pareil, on n'en parle pas trop et que on voit que des sexes, c'est généralement en érection dans le porno, on réfléchit pas trop à ça, quoi.
Ah non, mais j'ai jamais vu dans le porno un sexe comme le mien. Enfin, même des fois, je me suis demandé si j'étais tout seul.
Alors non.
Mais non, je suis pas tout seul. Ouais, bien évidemment, et tant mieux. Et ouais, c'est bizarre parce qu'en plus, je vois que j'ai des points de suture, que souvent aussi surtout le frein. On parle du frein. Moi, je vois que j'ai pas de frein.
Et tu sais pourquoi exactement?
Alors, pas vraiment, j'avais 3 ans, je crois que c'est poème d'excroissance de peau ou ce genre de choses, quoi, mais je sais pas vraiment la raison, en fait.
Ouais, ce serait intéressant de demander, ou même dans le carnet de santé, ça doit être stipulé ce qui s'est passé.
Ouais, faudrait que je retrouve ça, ouais.
Parce qu'il y a différentes raisons, parfois les prépuces chez les petits garçons sont trop collés, donc on va faire une petite incision pour aider à décaloter, et puis parfois c'est le choix est fait effectivement que ce soit une circoncision complète où on enlève toute la partie du prépuce.
Ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai jamais trop su, mais bon, mais surtout on n'en parle pas de la circoncision, c'est aussi l'après, parce que les médecins m'ont pas dit tu vas avoir mal, parce que j'ai eu mal, enfin je sais plus pendant combien de temps.
Tu t'en rappelles?
Mais je me rappelle de... Bah, déjà je me suis réveillé, j'ai arraché ma perfusion parce que j'ai 3 ans, je sais pas ce que c'est. tu te lèves, tu vas faire pipi, tu fais pipi du sang, ça brûle, t'as des points de suture qui se résorbent autour du pénis, ça dure longtemps, quand on te lave, des fois ça reste accroché dans la serviette, enfin ça s'en va un peu, ça fait mal. C'est pas, j'en garde pas un bon souvenir, vraiment
ouais,
pas.
Je comprends. Ouais, c'est pas. Un
c'est
bon
un
souvenir.
Peu. Non, en plus ton rapport à ton corps, après c'est vrai que bah, inconsciemment tu dis un peu avec enfin que ton pénis c'est une zone qui fait mal, quoi.
Oui, je comprends ce que tu dis. Oui, tu grandis avec cette idée-là. Ok. Donc revenons à tes 10 ans où effectivement tu commences la masturbation avec ton pote et tu te rends compte qu'effectivement il y a cette différence déjà physique vous. Et là, tu rentres dans la puberté à balle. Donc tu arrives au collège. Tu as parlé tout de suite des filles qui t'attiraient, pas les garçons.
Non, mais justement, enfin, il y a eu un événement quand j'étais plus petit. Mm-hmm. Enfin, j'ai subi des agressions sexuelles, en fait.
D'accord.
Et petit, ça m'a pas posé de problème parce que j'ai vite passé la chose. Je sais pas comment.
Quand tu dis petit, comme avec. T'avais quel âge, tu t'en rappelles?
J'avais 6 ans, ouais.
Petit.
Et bon, je pense qu'on est enfant comme ça, et en plus c'était quelqu'un de proche de ma famille, du coup.
C'était un adulte.
C'était un adulte, ouais. Et du coup, je pense que j'ai passé, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est un peu effacé de ma mémoire, on va dire. Je sais que je l'ai vécu, je sais que j'en ai parlé. J'en ai pas parlé à ma famille, mais je sais que j'en ai parlé à d'autres personnes. Et ouais, c'est pas... pendant mon enfance, ça s'est pas dévoilé. Ouais. Par contre, à l'arrivée de l'adolescence, déjà j'étais petit, tout frêle, parce que j'étais assez maigre, un gros duvet... j'étais vraiment quelqu'un, je suis toujours quelqu'un de gentil, mais j'étais vraiment le gars gentil, quoi. Et du coup, t'es faible, t'es une meuf, t'es une femme, t'es une tapette, naninana. Et c'est vrai que, en se rappelant de ça et de sentir ça au fond de soi, ça m'a fait douter pendant longtemps, ouais. J'étais là, est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas
D'accord, tu veux dire que c'est les autres, par leur moquerie et par
ce
qu'ils avaient décidé, qu'ils projetaient sur toi, qui... on t'a mis un doute sur ton orientation sexuelle.
Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Pourtant, après, je suis pas sorti avec... Si, je suis sorti avec des filles un peu au primaire, tout ça. Mm-hmm. Mais après, à l'adolescence, au début, non, je sortais quand même. Après, j'ai sorti avec des filles, mais ça m'a pas trop interrogé. C'est plus vers cette période-là où ça m'a posé problème, et aussi un peu plus tard, ouais.
Quand, pour revenir, et tu me dis hein, si c'est un peu trop délicat, mais les agressions que t'as vécues, c'était par un homme?
Ouais, par un homme, ouais.
Et est-ce que aujourd'hui, maintenant que tu es adulte et maintenant que tu es toi aussi un homme et que tu rentres dans ta vie d'adulte à 21 ans, c'est quelque chose qui rejaillit, qui te repose question?
Non, parce que justement cette histoire-là, lui, il a appris parce que j'en avais parlé à quelqu'un de sa famille. Il m'a appelé.
Il a appris que tu en avais parlé à ton entourage, c'est ça?
Exactement, ouais. Et lui m'a appelé et m'a dit ouais, c'est quoi ces conneries, naninana. Et moi je lui ai dit bon, écoute, je vais pas t'expliquer au téléphone, on se voit, on en discute. Et du coup on s'est vu et on a discuté. Il était abattu, quoi, parce qu'en fait lui ne s'en souvient pas, parce qu'il a un passé un peu tumultueux avec l'alcool et ce genre de choses.
Ah, t'as confronté ton agresseur.
Exactement. Et il était encore dans une situation hyper irrégulière et tout. Et je lui ai dit, écoute, je te pardonne.
Wow.
Oui, ça m'a causé des problèmes à un certain moment, mais aujourd'hui non. Et je le considérais comme quelqu'un de ma famille, un peu comme un père, le père que j'ai jamais eu. Et du coup, je lui ai pardonné. Et ça servait à rien de. Ça servait à rien de faire quoi, de l'amener au tribunal. De faire pour l'uriner encore plus sa vie alors que le mec a presque 60 ans et vit encore chez sa mère.
Après c'est toi qui sais, c'est toi qui as été la victime, donc c'est toi qui sais ta capacité de résilience par rapport à ce traumatisme là après effectivement
bien sûr.
C'est toi qui sais si c'est un agresseur qui a eu tu vois, enfin c'est cet homme qui a eu une errance parce que effectivement l'alcool est un moment de faiblesse et de graves difficultés dans sa vie, ou si c'est un agresseur qui peut potentiellement recommencer. Enfin, ça, c'est toi qui sais. Personne d'autre ne sait.
C'est ça. J'ai dû aussi un peu poser le pour et bien le contre sûr. Dans ma tête. Mais j'ai préféré pardonner. Et c'est un peu comme si je l'avais un peu enlevé de moi. Je l'ai fait sortir de moi-même. Et ça fait du bien, quelque part, aussi.
Ouais, mais c'est une grande force de caractère d'être capable de pardonner ça. Et comme tu dis, quand t'as 6 ans, il y a aussi cette capacité que les enfants ont à rebondir sur ce genre de choses qui est quand même assez phénoménal.
Exactement, ouais, c'est ça. Tant mieux, franchement, tant mieux.
Tant mieux.
Et, voilà, c'est derrière moi et c'est vrai que ça m'a posé des problèmes sur qui je suis, comment je veux être.
Et ça, c'était plutôt début d'adolescence.
Début d'adolescence et aussi, ouais, début d'adolescence. En plus, après, j'ai ma mère qui avait des amis homo. Et qui me taquinait un peu en mode ouais, t'es sûr t'es pas gay, tout ça. Mon meilleur pote aussi qui me disait ça, mais pour m'emmerder, c'était vraiment pas.
Oui, c'était la petite blague.
C'est vraiment pas méchant. C'est ça. Sauf que moi, inconsciemment, ça m'a replongé dans ce truc là et j'étais pas bien parce que je me reposais ces questions là. Et en plus, quand on se les repose à 10 ans et à 14 ans, c'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose. C'est un problème et on peut. Enfin, tu vois, même le conjugué au présent, ça poserait un problème si ton orientation était homo.
Non, non, au final, non. Ça serait ce que je suis, donc je ne vais pas réfuter ce que je suis.
Okay.
Mais pour l'instant, je me sens hétéro. Mmh. Je me sens bien dans ma sexualité. Je me sens même. Je vois que ma sexualité, elle évolue. Je suis épanoui. Je me fais confiance et. Si un jour, je me dis, peut-être que, en fait, j'aime les hommes, j'irai voir des hommes, puis j'accepterai qui je suis, et puis voilà.
Après, il y a le mix des deux qui, une expression que je reprends à un des invités qui s'appelle Vincent, qui m'avait amusé avec ce qu'il appelle le hétéro-curieux, donc lui-même est homosexuel, et il a eu, c'est un monsieur qui a 70 ans passé maintenant, mais il a eu pas mal, beaucoup d'amants, j'allais dire pas mal, mais énormément d'amants. Et notamment, il avait ce qu'il appelait des hétéros curieux. Donc des hommes complètement hétéros dans la vie, mais qui, une fois comme ça, avaient envie de s'essayer, tu vois, à une relation homosexuelle, ce qui ne faisait pas d'eux des homos, tu vois, mais c'était juste histoire de dire j'ai essayé, quoi. Donc j'aimais bien ce terme de hétéros curieux, je trouve que c'est assez smart. Ok, donc t'es au collège, donc puberté. Ça y est, t'es avec un peu plus avec les filles qui elles-mêmes sont dans cette période-là. Comment se passent les premiers rapprochements avec les filles?
Au début, je sais pas faire du tout. Je suis nul.
Personne
je
ne suis sait nul. Faire.
Ah ouais, non, mais vraiment, j'étais nul. J'étais un peu sur quand une fille me plaisait, j'étais un peu sur la défensive. Limite, je la faisais chier, mais pas comme un enfant qui va jouer, genre je vais lui faire des reproches, enfin pour attirer son attention, alors que ça ne marche pas du tout comme ça. Mais je sais pas, moi j'interagissais comme ça. Et après, ça s'est passé pendant mon année de ma deuxième sixième, où il y a eu ce changement-là, où je suis passé de enfant à ado en devenir, où j'ai un peu grandi, j'avais mon duvet, j'ai commencé à le raser, j'ai maigri. Enfin, j'ai grossi, j'ai maigri. Enfin, je me sentais mieux dans mon corps, quoi. Et là, je me sentais un peu plus à l'aise quand même, mais toujours un peu... un peu tabou, et comme je suis quelqu'un d'assez sensible, dès que même une petite amourette, c'était la folie quoi dans ma tête.
Tu t'enflammais à fond.
C'était ouais, ah ouais, à fond. Justement, quand je suis arrivé au collège, il y avait la fille avec qui j'étais sorti en primaire que j'aimais par-dessus tout, qui était là, on se rechatchait, on s'était re-embrassé, elle m'avait rebrisé le cœur parce qu'en fait elle avait un copain. Enfin, c'était dur pour moi parce qu'elle m'avait déjà brisé le cœur avant quand j'étais plus petit.
Ouais, c'est plus petit.
Ouais, ben c'est ça, et j'ai revécu encore la même chose quoi, avec elle.
Donc c'était ta première amoureuse, elle?
Ouais, vraiment ma première amoureuse, ouais, où vraiment j'avais des étoiles dans les yeux, où je pensais qu'à elle. Et justement, j'ai une petite anecdote avec ça. C'est alors je sais pas comment j'ai trouvé. Alors c'est ma meilleure technique de primaire. Je suis allé la voir et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de te parler. J'ai un carnet vierge. J'écris des trucs dedans. Je te le donne. Tu me réponds et on se le passe quand tu veux.
Comme un
et j'ai réussi.
Liaison, quoi.
Exactement, où on s'échangeait des mots, on se faisait des dessins, et j'ai réussi à la pécho comme ça.
Waouh, c'est pas mal comme technique, c'est mignon.
Et franchement, je me suis rappelé de ça tout à l'heure et j'ai dit, ah ouais, franchement, beau gosse, parce que j'aurais pas pensé même maintenant en fait.
Ah bah on sait avec les moyens du bord, hein.
Ouais, c'est ça, bah ouais, c'est ça, bah il y avait pas les réseaux sociaux à 8 ans, enfin normal. Mais ouais, c'était cool. Ouais.
Donc ça, c'est au collège, donc c'est quoi, c'est ta première, ton premier flirt?
Ouais, mon premier vrai flirt après, oui. Alors, très décisif. Là, j'étais dans un collège, après j'ai changé de collège. Et là, j'ai changé du tout au tout, je me suis coupé les cheveux, je me sentais bien. Ma mère, elle travaillait dans les magasins de vêtements. Du coup, elle m'avait vraiment sapé, enfin, à la mode des années 2012, quoi. Du coup, j'étais swag, j'étais beau. Et là, c'était l'effervescence. Toutes les filles de mon collège m'ajoutaient sur Facebook à l'époque, m'envoyaient des messages. Les filles des autres collèges aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug dans l'espace-temps. Je suis passé de bolos à trop BG du collège que toutes les meufs veulent. C'était ouf. C'était incroyable. Je me sentais le roi du monde. Je devenais un petit con, enfin. C'était ouf. C'est, même d'en parler, j'ai une sensation genre dans le ventre.
L'apogée de ta sexitude, quoi.
Ah ouais, pour un mec de 12-13 ans, ah ouais, c'est incroyable. C'est là, en plus, avec les réseaux, c'était là la première fois où t'atteins, je sais pas, genre, tu sais, les 100 gemmes, 150 gemmes. Ah, mais j'étais une rockstar, j'étais Michael Jackson, genre, c'était ouf. Et là, quelques mois après, je rencontre une fille.
Ouais.
Qui me voulait absolument. Je sais pas pourquoi ça a été elle, parce que je crois que c'est elle qui a été le plus direct avec moi. Et classique, on a parlé pendant, c'était rapide, hein, une semaine sur Facebook où elle me racontait un peu ses histoires avec d'autres garçons et tout. Puis après on s'est embrassé. Mm-hmm. Et direct après, elle m'a dit ouais, ce week-end je viens chez toi. Du coup, là, je me suis dit, ok,
là, t'es en quelle classe,
tu vas coucher avec elle. J'étais en 5e.
Ok.
Bah, j'avais, ouais, 12-13 ans, je crois. C'est assez jeune. Et du coup, elle mettait des comptes à rebours sur Facebook, J-7, naninna. Tu prends mes jours J, et en fait, après, elle est venue chez moi, et on a fait notre première fois ensemble.
Donc, t'as 12-13 ans.
Ouais. Et c'était cool. C'était super cool. Non, elle avait 14-15 ans, je crois. Elle était plus vieille que moi.
Ok. Et donc, cette première fois, tu t'en rappelles?
Ouais. Ah ouais, je m'en rappelle. Ouais. Mais déjà, avant, on s'était vu. On avait fait quelques préliminaires.
Mm-hmm.
Qui s'étaient très bien passés et tout. Même, j'avais un pote à côté de moi qui m'avait frappé pendant les préliminaires pour me faire chier. Enfin, des trucs un peu de gamin, quoi. Et après, du coup, on a accouché ensemble et c'était dans l'écoute, respectueux, protégé. C'était bien. Après, la suite, c'est que cette fille, je suis resté quand même, à l'époque, 6 mois, ouais, pour quelqu'un de notre âge, c'est beaucoup. Mais elle venait souvent chez moi et c'était du sexe à outrance, quoi.
D'accord. Et le corps féminin, alors?
Ah, incroyable. Incroyable. Je découvre... Enfin, comme je me suis beaucoup éduqué avec le porno, déjà,
ouais.
Je savais déjà à quoi ça ressemblait. C'est vrai que je me masturbais beaucoup. Alors, tous les jours. tous les jours.
Tu te masturbais que sur du porno ?
Ouais, que sur du porno, mais justement, ça je voulais en parler, c'est là où j'ai développé un fantasme que j'ai encore, justement.
C'est-à-dire ?
Eh bien, justement, je sais pas pourquoi j'ai un fantasme sur les femmes mûres, voire très très mûres. Voire un peu âgées.
C'est-à-dire genre des MILF plus plus.
Ah ouais, des MILF plus plus, ouais ouais, genre limite catégorie Grammy quoi. Je sais pas pourquoi j'aime ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête il y a eu une alchimie avec ça. Mais ça se trouve dans la vraie vie mais jamais je ferais ça, mais je sais pas pourquoi.
Est-ce que t'as regardé American Pie? Tu connais ce film?
Ouais, ça m'a beaucoup éduqué.
Bah, maman
ouais,
pas de mal, Stifler, ouais. Bien sûr, la base.
Ouais, mais là c'est plus maman de Stifler, c'est plus grand-mère de Stifler. Pas non plus déambulateur en train de mourir. Mais un peu entre les deux quoi. Mais je sais pas pourquoi, j'en ai parlé à des potes, enfin je l'ai assumé à des potes, ils se foutaient de ma gueule, mais en même temps ils me disaient écoute, c'est comme ça. Mais je pense que c'est un fantasme, si ça se trouve,
voilà, c'est un fantasme, je pense que c'est bien d'avoir des fantasmes. Après, effectivement, il y a ce que tu projettes avec une femme très mûre. Donc on parle pas d'une quarantenaire ou même mm-hmm. d'une cinquantenaire, on parle vraiment d'une dame âgée quoi.
Exactement.
Genre Brigitte Macron.
Ouais, fort Brigitte. Fort Brigitte.
OK, écoute, en même temps pourquoi pas.
Ouais, mais c'est vrai que j'aime, d'un côté ça fait tellement longtemps que j'ai ce fantasme que j'aimerais bien le réaliser juste pour voir quoi. Juste pour voir si j'en suis, j'aime vraiment.
Bon, avant de le réaliser, peut-être qu'il faudrait que tu rentres dans la, tu le fasses par étapes.
Oui, c'est vrai que c'est dur, une femme de 70 ans à 21 ans, c'est,
ça
part aller en EHPAD.
Peut-être que tu te mets un premier goal, tu vois, autour d'une femme qui a déjà 10, 15 ans plus que toi, puis ensuite 20, 25 ans, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui aurait 50 ans de plus que toi, là, c'est...
Exactement.
C'est quand même, tu vois, un bail, quoi.
Ouais, c'est une vie, quoi. C'est une vie tout entière. c'est un autre monde, une autre époque. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est fou, hein. Mais qui sait, un jour, peut-être. Je sais
Écoute,
pas.
Je ne sais pas si j'ai envie de te dire, je te le souhaite. Et quelque part, pourquoi pas. Franchement, soyons open là-dessus. OK. Donc, donc, pour me donner la racine de ce fantasme, c'est à peu près à cette période-là que c'est en train de se créer en toi. C'est peut-être effectivement... Si on essaie de prendre un peu de hauteur là-dessus, ça se trouve, c'est effectivement un porno que tu as vu ou des images que tu as vues qui t'ont, ce jour-là, énormément excité. Tu as peut-être fait dans ta tête une espèce de, tu vois, tu as capturé ce moment-là, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment resté ancré en moi. Et c'est bizarre que... Parce que je sais que j'ai des fantasmes que j'avais plus jeune, que j'ai plus maintenant... Mais celui-là, il est vraiment resté bloqué dans ma tête.
Qu'est-ce que tu avais comme fantasme que tu aurais réalisé ou que tu n'as plus aujourd'hui ?
La catégorie BBW, surtout, ouais. Bien ça.
C'est laquelle, celle-ci ?
C'est des femmes très, très, très en chair.
Ok. Donc ça, c'est
d'accord.
Des... D'accord. Jeune, tu regardais ça ?
Je regardais ça aussi, ouais.
Et aujourd'hui, tu peux... Non, c'est plus...
Et aujourd'hui, plus du tout, ouais. Plus du tout, ouais, ouais. Mais j'ai déjà essayé j'ai déjà couché avec des femmes pas autant catégorie BMW, mais qui s'en rapprochent, et c'est vrai que c'était pas ce qui me plaisait le plus, on va dire.
C'est le type de femme que tu regardes, des femmes très rondes ou pas tant ?
Pas tant, ouais, pas tant. Mais pourtant, plus jeune, c'est vraiment quelque chose qui me faisait vraiment de l'effet, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est... Là, je prends un peu de réflexion sur le sujet, c'est le fait de érotiser le corps gros. Est-ce qu'on on doit érotiser un corps gros ? C'est une vraie question. Comme quelqu'un qui a la peau noire ou quelqu'un qui vient d'Asie ou peu importe, est-ce qu'on doit érotiser ce genre de corps ? C'est une question sans réponse, hein, qui n'a pas forcément une réponse, hein, mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on érotise une particularité physique.
Alors, c'est une question très très large et très très vaste et très très compliquée. Mais je sais pas trop. Moi, je sais que c'est, je sais pas, c'est personnel, ça s'est développé en moi.
C'est que tu trouvais que les sexes étaient beaux ou il y avait... Parce que, alors, BBW, c'est Big Beautiful Woman, pour les gens qui ne savent pas.
Ouais.
Pareil, est-ce que c'est quelque chose qui a capté tes sens ou est-ce que c'est, il y a une recherche d'esthétique ou au contraire, il y a quelque chose d'un peu plus freaks, et je le dis avec, tu vois, avec beaucoup de... de pincettes, hein, mais est-ce que c'est ça qui te... Parce que généralement, les Big Beautiful Women, c'est vraiment des femmes très très fortes, hein, avec des obésités morbides. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi ça t'a plu?
C'est comme pour l'autre catégorie. J'en sais rien. Je sais pas, j'ai peut-être que... Non, franchement, j'en sais rien. J'ai jamais su pourquoi. Mais je pense pas qu'on sait... Enfin, si, il y a peut-être des gens qui savent d'où viennent leurs fantasmes, mais moi... J'en ai aucune idée. Hein.
On ne sait pas vraiment, forcément, mais on peut trouver pourquoi. Enfin, tu vois, quand tu vas dans des recherches après un peu plus... quand tu fais un peu de thérapie, où tu peux trouver parfois la racine, en tout cas, de tes fantasmes et de tes kinks. Hein. C'est Gilles, qui était l'épisode 47, qui parlait justement, lui qui est un chubby bear dans le BDSM trash gay. C'était assez intéressant les en tant que dominateur ce qu'il faisait sur certains soumis et il y a des racines des fantasmes de ces soumis qui veulent se faire, tu vois, frapper ou humilier ou des choses comme ça. Enfin, ils savent pourquoi la racine est là, quoi. Mais pourquoi pas à creuser peut-être plus tard, hein.
Mais peut-être à creuser, ouais. C'est vrai que ça pourrait être un peu amusant à trouver.
Tant, si ces catégories existent et ont aussi bonne place sur les sites de porno, c'est que tu es loin d'être le seul à aimer ça.
Oui, oui, mais je me doute bien. Si ça existe, c'est que c'est pas juste pour moi, quoi.
Ouais, c'est... Non, surtout ça... que c'est les deux catégories que tu viens de citer, elles ont bonne place dans les sites porno.
Oui, oui, mais je pense que c'est pas... Enfin, c'est un peu peut-être des catégories tabous, on va dire. C'est peut-être pas celles qu'on va dire en premier qu'on regarde, quoi. C'est vrai que moi, j'ai mis longtemps... avec mes potes proches, quand on en parlait, à le dire, quoi, à l'avouer. Mais maintenant, je sais pas, j'ai grandi, j'ai des amis que j'aime et avec qui je me sens bien, et du coup, je me livre, hein, c'est pas grave, c'est un fantasme comme un autre.
Ok, donc tu fais cette première fois avec cette jeune fille qui est un peu plus âgée que toi.
Exact.
T'es assez jeune quand tu commences ta vie sexuelle active. Est-ce que t'en gardes un bon souvenir? Quelle va être la nature de votre relation?
Mauvaise, un peu toxique. C'était beaucoup de sexe un peu à... Je sais pas si c'est à outrance, mais c'était quand on se voyait, c'était vraiment beaucoup de fois, dès qu'on se voyait. Je me souviens qu'un jour, j'avais oublié les préservatifs, elle avait pété un câble, assez énervée. Après aussi, je sais qu'elle m'avait trompé, elle me l'avait dit, j'avais pardonné. On était restés encore ensemble, mais... Elle avait une emprise sur moi qui était mauvaise. Elle se foutait de ma gueule devant mes potes. Enfin, c'était très 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 particulier. Puis ça s'est fini.
Et le sexe entre vous, ça se passait comment?
C'était la découverte. Et c'est vrai qu'avec l'éducation du porno, je vois que quand je m'en rappelle, c'était très faut aller vite, fort, loin. Enfin, vraiment un peu se déchaîner, quoi. Pas trop. C'est vrai que là, j'ai pas vraiment de tendresse ou de bisous. C'était assez mécanique quand même. Et c'était aussi la découverte du corps, quoi.
Et dans votre sexualité à vous, c'était... Vous restiez sur une sexualité... et t'arrives un peu à la définir, ou vous étiez dans les schémas caresse, préliminaire, pénétration?
Sodomie. Non, pas sodomie. Mais ouais, c'est assez vanille, mais assez... je pourrais pas dire BDSM, parce que non. Mais assez, assez violente. Quand même. Et même, mais c'était très pas faire mal. Mais si elle, je crois, j'ai des souvenirs quand même qu'elle me disait, ouais, fais semblant comme si tu me violais. Je pense que c'était un fantasme qu'elle avait. Elle voulait que je l'étrangle ou ce genre de choses, quoi. Mais après, ça, c'est des pratiques, moi, je trouve assez courantes.
Ouais, mais à 13 ans, 14 ans, ça reste.
Peut-être pas. Mais c'est vrai qu'on avait une sexualité très libérée et aussi on était un groupe d'amis.
D'accord.
Et des amis, ils sortaient aussi ensemble et on couchait tous ensemble dans la même pièce, sans tabou. C'était fou. Là maintenant, quand je m'en rappelle.
Genre en mode mélangisme, mais genre à côté.
Pas mélangiste, mais à côté, mais vraiment à côté, quoi.
Okay.
Et limite, s'il n'y avait pas un jeu de celui qui fait plus de bruit, celui qui finit en premier, tu vas rigoler. Enfin, c'était quand même bon enfant, quoi. Mais on n'avait pas, je crois qu'on n'avait pas de pudeur. Ou pas assez de pudeur, quoi. Vraiment, c'était
la... aujourd'hui?
Non. Ah non, parce que là, c'était vraiment la débandade, quoi. Genre, c'était deux sur... Un sur le lit, un sur le matelas, un sur la mezzanine. Enfin, c'était...
Ah ouais. Vous étiez donc plus de potes, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'était n'importe quoi. Mais j'en garde quand même des bons souvenirs.
Ça a duré combien de temps, ça?
Ça dure ouais, un an.
D'accord. Pendant un an, c'est un peu la.
C'est ça.
La fête du slip, hein, quelque part.
C'est ça. Ouais, parce que j'étais dans ce collège-là avec ce groupe d'amis, mais j'avais d'autres amis. Il y a eu des soucis et j'ai fait une tentative de suicide en fait, parce que je me faisais harceler par mes amis.
Le
et
là, groupe d'amis dont tu parles là ?
Non, d'autres amis qui étaient rattachés à ce groupe en fait.
D'accord. Et ils t'ont harcelé ?
Ouais, ils m'ont harcelé là, alors que je pensais que c'était vraiment mes amis. C'était la première fois aussi où. C'est ouf, hein, mais juste le mot frère, que ma génération on utilise beaucoup. Ouais. Moi, c'était la première fois qu'on l'utilisait avec moi, et moi, j'avais jamais eu de petit frère ou quoi que ce soit. Et bizarrement, ça a énormément compté pour moi, ce mot-là. Et quand il y a eu ces séparations où tout le monde m'a tourné le dos et m'a craché dessus et m'en voulait, c'était dur. C'était dur.
Quelle séparation dont tu parles ?
Ben, avec eux, ce fait qu'ils se retournent contre moi et qu'ils commencent à m'harceler, à me cracher dessus, à changer du tout au tout, à être les meilleurs amis du monde, à que je suis qu'une grosse merde.
Et tu sais pourquoi ils ont vrillé comme ça ?
Ouais, parce que il y avait une histoire et en gros, apparemment, j'étais le meneur de cette histoire. J'avais dit des choses alors que ben, j'avais rien dit du tout. En fait, on a voulu me faire porter le chapeau parce que j'étais, entre guillemets, le plus faible de la bande. J'étais tellement bien, j'étais passé d'un mec pas coté à le mec que toutes les meufs veulent choper quand t'as 13 ans, t'es au début de l'adolescence, ça, une grosse merde. Du coup, dans ma tête de jeune ado, je me suis dit, ben ok, ben ma vie elle est foutue, j'ai envie de crever.
Waouh.
Du coup, j'ai pris deux boîtes de médoc, j'ai même pas regardé ce que c'était, j'ai tout bouffé. J'ai commencé à gerber en cascade et là ils se sont dit, bon ben on va aller à l'hôpital.
Waouh.
Et je suis resté quelques jours et j'avais rien dit, j'avais pas dit que j'ai fait une tentative de suicide et au bout d'un moment j'en pouvais plus, je me sentais tellement mal que. J'attrape un médecin, je lui ai dit. Et là, ça a changé du tout au tout. Les gens, ils ont su ça. Eux, ils crachaient au collège par terre en disant « J'espère qu'il va crever. » Après, je suis revenu. Après, je me suis rétabli, je suis revenu. Tout le monde était me méprisait. Et justement, cette fille avec qui j'étais jouait un peu un double jeu parce qu'après, elle couchait avec un des mecs qui m'avait harcelé. Et j'ai dû me reconstruire un peu, enfin, c'était un énorme choc pour moi, enfin, psychologiquement ça m'avait détruit.
Bah émotionnellement je pense que ça a été une énorme claque,
ouais.
Quoi.
C'était une énorme claque, ouais, parce que je me sentais bien dans ma vie, même si j'étais pas le meilleur des potes, je devenais un peu un petit con. Bah ça m'a désingué, quoi.
T'as gardé quand même un groupe d'amis ?
Ouais, mes groupes d'amis qui m'ont harcelé, ouais. Je suis resté avec eux, ouais. Mais je suis resté avec cette fille et après, plus tard, j'ai appris qu'elle m'avait trompé avec énormément de personnes, même des
wow.
Soi-disant potes à moi. Alors là, c'était des bandades, j'étais anéanti. Et le soir où je l'ai appris, j'ai couché avec une autre fille qui me plaisait pas du tout. En plus, si c'était nul, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis jeté par terre en me tapant la tête pour faire croire que j'étais devenu amnésique parce que j'assumais pas d'avoir couché avec la fille. Enfin, c'était un bordel monstre.
Okay.
Et c'était n'importe quoi. Et bon, mes parents, ils ont vu que j'allais pas bien. Et du coup, ils m'ont sorti dans un collège très très fermé où on était, je sais pas, 80, je crois, dans la Pampa.
Ta mère a décidé de prendre les devants.
Ah ouais, elle s'est dit stop. Enfin, elle s'est dit, je me souviens de l'entendre dire. J'ai vu mon fils qui avait envie de mourir, quoi.
Ouais.
Et là, même si j'avais 13 ans, ça m'avait marqué. D'un côté, c'est pas plus mal, ils m'ont foutu là-bas. Là, il y avait plus de téléphone, pas le droit de sortir dehors, une cour qui fait la taille d'un terrain de basket.
Tu penses que ça aurait été différent s'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, les choses comme ça ?
Ouais, un peu, ouais, parce que c'est vrai qu'après, je me suis pas mal fait harceler sur les réseaux aussi, du coup. Après, quand je suis parti de l'hôpital. Mmh. Donc ouais, ça aurait changé la donne, mais bon, pas tellement, quoi.
Bon.
Et du coup, après, dans ce collège, qu'elle me plaint, quoi.
Et après, voilà, donc t'es dans ce collège-là, donc tu termines ton collège là-bas.
Exact, ouais. Où c'est calme.
Ouais.
C'est calme. Et après, si j'ai rencontré une fille, coucou Amélie, si tu passes par là.
Coucou Amélie.
Et ouais, où c'était... Où c'était classique, quoi, genre on s'aimait bien, on est sortis ensemble, on est restés toute l'année scolaire ensemble, elle a fait sa première fois avec moi, j'avais déjà un peu d'expérience. C'était cool, enfin c'était sexe vanille. Après on s'est quitté, enfin c'était une relation normale quoi. Il y a c'était bien, c'est tout.
D'accord. Et ça c'est une tu penses que t'as été amoureux de cette fille, de Amélie?
Non, amoureux non, je peux pas dire amoureux.
Mais en tout cas ça t'a fait du bien.
Ouais, ça m'a fait du bien, ouais parce que elle m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup. Là ma sexualité elle a commencé à changer aussi. Plus faire plaisir à l'autre, plus être tendre, plus de câlins, plus même s'il y avait eu d'autres filles entre-temps. Là c'était vraiment une vraie petite amourette sympathique quoi.
Ouais, c'était beaucoup plus apaisé avec Amélie.
Ouais, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, on est toujours en contact d'ailleurs, on est amis maintenant, elle était proche de ma mère, j'étais proche de sa famille. Enfin ouais, c'était cool sexuellement, c'était vraiment bien. C'était épanoui. Là aussi, c'est la première fois où j'ai connu aussi la lassitude sexuelle. Mmh. Parce que je suis resté presque un an avec elle. Et c'est là où j'ai senti les premiers symptômes, c'est pas une maladie, mais de se lasser d'un corps. C'est la première fois où ça m'est arrivé.
Parce que votre sexualité était trop vanille pour toi?
Ben, je sais pas trop, non, je crois que c'est... Bah, après, on avait quoi? On avait 15 ans, on n'a pas trop de perspectives pour faire autre chose que se voir chez les parents. Mm-hmm. On faisait souvent la même chose, on couchait souvent pas aux mêmes heures, mais on faisait tout le temps en regardant le film, après on couche ensemble, après on dort. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une routine un peu qui s'est installée. Et du coup, ouais, là, j'ai senti un peu la lassitude, quoi. Puis après, on a fini par se quitter.
Mais donc là, tu finis ton collège, t'arrives au lycée.
Ouais,
comment ça se passe?
J'arrive au lycée. Super bien. Super, super cool. C'est là où je suis avec des gens plus grands, j'ai pris en maturité. Et là, je vais rencontrer une fille. Parce que j'ai mon meilleur ami qui habite dans le Rhône-Alpes. Et ça faisait 5 ans qu'il était là-bas et j'étais jamais allé. Et puis, il m'a amené là-bas. Où il avait un peu une double vie, il venait chez moi et lui, il avait ses amis chez lui. Et il avait une meilleure amie et il me l'a présentée. Et là, j'ai eu vraiment le premier coup de foudre, quoi. Mais vraiment, je m'en souviens encore et même encore, j'y pense souvent. On fait une soirée et je couche avec elle.
Ouais.
Ça se passe pas bien du tout. Vraiment, j'ai fait une Lucky Luke, 2 secondes chrono. Elle était dégoûtée, moi j'étais dégoûté. Ça faisait 2 jours que je la connaissais, mais... Je sais pas, il s'est passé un truc... en fait, dès que je l'ai vu, c'était ouf. C'est la première fois que je ressentais ça. Genre, je sais pas si je l'aimais premier regard, mais dès que je l'ai vu, c'était fou. Il s'est passé un truc dans mon cerveau, tout s'est emballé. Et je me souviens, elle était magnifique. Elle avait un pull graine de salope, une doudoune sans manche avec une fourrure. J'aimais pas du tout ce style-là, mais je sais pas pourquoi. Elle, c'était fou. C'était fou. Et justement, après, on s'est revu. C'est là aussi les premières fois avec elle où j'ai pris de la drogue dure en festival.
Alors, la drogue, évidemment, à consommer avec modération. Hein.
Et oui, ouais, surtout. Et surtout pas quand vous avez 16 ans. Et en fait, j'ai un peu construit la relation que j'avais avec elle avec ça. Et comme on prenait beaucoup de DMD, d'ecstasy, bah, les sentiments, ils sont décuplés. T'aimes tout le monde. Tu te sens bien et avec elle du coup j'avais un coup de foot pour elle et avec ça en plus c'était fou. Mmh. J'ai construit une relation avec elle sur ça, en plus on fumait beaucoup de joints, enfin c'était pas très sain, mais qu'est-ce que j'avais du désir pour elle, alors que pourtant avec les autres filles par exemple, je sais qu'il y a des gens par exemple qui préfèrent coucher le matin, le soir, enfin avec elle c'était tout le temps, j'avais tout le temps envie, c'était fou. Son corps me plaisait à 1000%. Enfin,
il y avait une super chimie, quoi.
Ouais, ouais, c'était fou. En plus, elle était différente de moi. Elle était toujours un peu molle, à s'en foutre de tout. Alors moi, mec qui réfléchit tout le temps, qui pense tout le temps, c'était génial.
Et ça a duré combien de temps?
C'est vraiment génial. Bah, l'été, on s'est vu beaucoup de fois. On restait longtemps ensemble. Elle venait chez moi, je venais chez elle. Et pourtant, elle était à 700 km, hein, mais je me débrouillais toujours pour venir la voir. Et c'est... Ouais, sexuellement, c'était... Waouh. C'est... Je sais pas pourquoi, là... C'est vraiment là où j'ai ressenti l'envie de me donner à quelqu'un. Mm-hmm. Mais vraiment lui faire plaisir à 100%. Je pense qu'il y a le facteur aussi, peut-être, que je ressentais des vraies choses pour elle, parce que c'est là où vraiment j'ai l'impression, même aujourd'hui en grandissant, que c'est là où j'ai vraiment ressenti les premiers sentiments amoureux, où vraiment je me dis, ok, c'est ça, c'est peut-être ça, aimer, et lié à une sexualité épanouie, c'est incroyable.
Et t'as plus de nouvelles ?
Non. Non, non, si, j'ai eu des nouvelles il y a pas longtemps, mais on a coupé les ponts. On a coupé les ponts à cause de la distance, et parce que bon, voilà, on n'était pas ensemble. C'était comme un peu une amourette de vacances, mais c'était un peu un amour à sens unique. Je pense qu'elle voyait que moi, je l'aimais énormément. Elle, moins. Je regrette pas tout ce que j'ai fait. Parce qu'après, j'ai rencontré une autre fille.
Ouais.
Justement, au lycée, dans ma deuxième seconde. Où là, c'était vraiment tout autre chose.
C'est-à-dire ?
Où là... En fait, c'était schéma classique. Je l'ai vue, elle m'a vue. Je l'ai DM sur Insta, on a commencé à parler. Et puis je suis allé chez elle, ses parents n'étaient pas là. On a couché ensemble. C'était super beau, en plus. Enfin, c'était très vanille, mais elle avait encore... que j'avais jamais eu, c'était une fille très mince, très élancée, très prude sur elle, qui faisait très attention à elle. Et c'était vraiment incroyable la première fois qu'on a couché ensemble.
T'as un style de fille aujourd'hui qui s'est défini ?
Franchement, je me suis rendu compte que non. C'est un peu mon problème, j'ai l'impression que toutes les filles me plaisent.
En plus de 18 à 77 ans, quoi, c'est ça qui est génial.
Ah oui, mais c'est le souci, mon spectre est tellement large, je sais pas où donner de la tête. Mais même si une fille physiquement va pas me plaire,
ouais,
je vais quand même creuser au fond d'elle, parce que je sais qu'il y aura des choses qui vont me plaire et ça va la rendre belle.
Okay.
Et je vais coucher avec elle. C'est souvent ce qui arrive. Et c'est cool, mais c'est bien parce que je me restreins pas qu'au physique. Il y a autre chose. Il y a des choses plus, peut-être plus pures et plus avantageuses, plus jolies à creuser. Donc non, j'ai pas de style de fille.
D'accord. Et donc t'as cette relation avec cette fille.
C'est ça. On reste 2 ans ensemble.
D'accord. 2 ans. Donc vous finissez le lycée ensemble.
Ouais, on fait le lycée ensemble. Enfin, sauf que là, c'est la désillusion. On sort ensemble. Au début, tout se passe bien. La jalousie arrive. C'est une fille qui était un peu influenceuse, avec pas mal d'abonnés. Du coup, une fille très sur les réseaux, très attention à son image, comme je l'ai dit, qui met beaucoup de photos, mais tout le temps faire attention à son image. Et moi, ça me saoulait parce que moi, je fais attention à mon image, mais pas comme elle. En fait, elle vivait un peu à travers les réseaux sociaux. Mmh. Elle n'avait pas de vie sociale. J'étais sa seule vie sociale. Du coup, ça devenait très toxique.
Sinon, sa vie, c'était que du digital.
Ouais, c'était que du digital. Que ça. Elle se renfermait sur elle-même. Elle commençait à plus voir d'amis. Moi, à cause de ça, elle m'a restreint. Plus la relation avançait avec elle, et plus on s'est pris la tête, on se prenait la tête tous les jours, ça devenait vraiment toxique. Et le pire, c'est que sexuellement, au début c'était cool, ça allait. Mais en fait, ça a tellement influé sur la relation que moi j'avais plus envie de coucher avec elle. Et le problème, c'est que elle m'a dit, je sais pas si c'est vrai, elle m'avait dit qu'elle était chez le médecin, qu'elle avait des troubles bipolaires.
Okay.
Et du coup, par exemple, si j'avais pas envie de coucher avec elle, elle pleurait, elle criait, elle se tapait la tête contre les murs, elle disait que je l'aimais pas, que je la désirais plus, alors que c'est pas du tout le cas.
Ok, elle te faisait des crises de jalousie, des choses comme ça.
Ouais, c'était dur parce que j'ai couché avec elle et j'étais vraiment à des moments, j'étais pas consentant. J'étais pas du tout consentant. Je me forçais, je sentais plus du tout plaisir à coucher avec elle. J'essayais d'aller très très vite pour éjaculer le plus vite parce que sinon je ressentais rien. Des fois j'avais pas d'érection, du coup ça partait dans les tours à s'engueuler et moi je devenu malade à cause de ça, j'étais tout le temps stressé, j'ai commencé à faire de l'anxiété. C'était horrible, sur ça c'était horrible.
Parce qu'elle te mettait cette pression-là, parce que t'avais le sentiment que tu étais responsable de son état psychique.
Ouais, ah oui, complètement, je me disais c'est ma faute, elle a pas confiance en moi, du coup elle a peur que je la trompe. Et du coup je me disais si je couche pas avec elle, ça va être terrible.
Ouais, t'avais peur de ses colères ou de ses états
ouais.
De nerfs.
Ouais. En plus, elle me menaçait de se suicider, genre, presque tous les jours.
Waouh.
Tout le temps, elle voulait que je l'appelle. Fallait que si j'étais pas avec elle, fallait que je lui parle tout le temps, que tous les soirs, je l'appelle. J'étais en internat à cette époque-là, je rentrais du sport. Je devais l'appeler, je voyais plus mes amis. Je l'appelais direct en s'engueuler, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. J'avais fait une crise de nerfs à un moment. Enfin, j'arrivais plus à respirer. Tout le monde dans l'internat m'a sorti parce que je frappais partout.
Ouais, j'avais défoncé des... plus, quoi.
Ouais, c'était fou. C'est qu'elle m'a changé du tout au tout. Moi, je l'ai changé. Il y a aussi ma part de responsabilité parce que moi, je lui mentais, en fait. J'assumais pas ce que je ressentais parce que j'avais peur de la perdre. Parce que, en fait, aussi, si je suis resté avec elle, c'est que pendant cette période-là, j'ai perdu ma maman. Ah. Et en fait, elle avait une famille, elle avait un peu la famille que moi, j'avais jamais eue. Une situation stable, financière stable, pas vraiment de soucis. Tout ce que moi, j'avais pas eu, elle l'avait. Et ses parents me le donnaient. Et quand j'ai perdu ma mère, c'était vraiment mon soutien, quoi. Je venais d'avoir 18 ans. Ben je restais accroché à elle parce que c'était mon pansement pour survivre. Parce que je sais pas si sans elle j'aurais pu remonter la pente, avoir encore envie de vivre parce que j'avais perdu mon pilier.
Je comprends.
Enfin, c'était ma mère, c'était toute ma vie. C'était, j'avais qu'elle, j'avais encore des parties de ma famille. Mais j'étais pas proche d'eux. La personne de qui j'étais le plus proche, c'était ma mère. C'était tout pour moi, j'étais son enfant roi, un peu comme on dit, même si j'aime pas trop ce terme.
Elle est morte d'une maladie ?
Elle est décédée d'un cancer.
Waouh, elle était jeune en plus.
Elle avait 50 ans, elle était malade pendant 2 ans. Et je pense qu'elle a baissé les bras et en un mois, elle est partie en fait. Ça s'est dégradé très 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 vite.
Ah ouais, en effet, ouais.
Et voilà, mais après quand elle est partie, j'étais là, je lui tenais la main, j'étais auprès d'elle. Je lui ai parlé... J'ai eu le temps de discuter avec elle, même si elle était inconsciente.
Quelle épreuve t'as vécue ? C'est tellement dur.
Ouais, c'est dur, mais... J'ai un souvenir, c'est que je lui parlais, elle était inconsciente, mais elle entendait quand même, et... Elle a lâché sa dernière larme pour moi. Ouais. Sa toute dernière larme de son corps, elle a lâché pour moi, et... Et c'est beau, et je suis content d'avoir été là pour elle, comme j'ai pu, j'ai été l'enfant que j'ai été, et...
Je suis hyper émue, c'est...
Ouais, un peu, mais... Mais j'ai pas perdu espoir en la vie parce que même si la vie de ma mère s'est arrêtée, moi ma vie elle s'arrête pas. Moi faut que je continue à vivre, à me battre.
Bien sûr.
À me battre pour ma sœur parce qu'en plus j'ai une sœur qui est handicap léger. Qu'il faudra peut-être que je m'occupe plus tard. J'ai le reste de ma famille quand même âgée. Donc ça se trouve dans 20 ans, mais il n'y aura plus que moi et ma sœur. Du coup faut que j'assure ma vie, faut que peut-être j'assure la vie de ma sœur et. Mais la vie, elle est quand même belle et j'ai plein de trucs à vivre encore et faut que je m'accroche. Et...
Quelle leçon de vie
et voilà.
Tu fais. Quelle belle leçon, ouais. Du coup, t'es avec cette jeune fille, votre histoire se termine au lycée ?
Ouais, bah ouais, parce que, enfin, du coup, je suis resté avec elle. Elle a passé son bac, elle est partie en études sup et ce qui arriva, bah, je l'ai trompée parce que j'en pouvais plus.
Ouais.
J'étais au bout et c'est lâche, mais j'avais besoin d'une raison pour la tromper. J'avais pas le courage de le faire. Du coup, je l'ai trompée. Le lendemain, je l'ai appelée. Je lui ai dit, je te quitte. Je lui ai pas dit tout de suite que je l'ai trompée. Et après, on s'est séparés, quoi.
Et finalement, elle a plutôt pas trop mal vécu la séparation.
Non, ça nous a fait du bien, au final. Ouais. Parce que après on s'est reparlé, elle s'est rendu compte que ce qu'elle faisait c'était pas bien, que moi aussi j'ai ma part de responsabilité parce que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, j'ai aussi ma part de responsabilité. Et voilà, mais c'est vrai que au niveau sexuel c'est traumatisant et c'est vrai que maintenant dans mes relations, c'est vrai que j'ai peur de ça, j'ai peur de pas avoir une érection, j'ai peur de pas assurer, j'ai peur de un peu de pas satisfaire des fois, de Ouais, j'ai encore des séquelles, j'ai la peur de pas avoir envie. Et j'ai surtout la peur que si j'ai pas envie, ma partenaire en face de moi va mal réagir. Et ça, c'est un truc que ça me tétanise un peu, quoi.
Bah, en fait, t'as totalement le droit et c'est hyper ok que t'aies pas envie. Ça t'appartient et un homme n'a pas forcément toujours envie de faire l'amour. Et il faut que, bon, ça prendra un peu de temps parce qu'effectivement, comme tu dis, t'as quelques séquelles de cette histoire et cette jeune femme, je pense, a laissé... Même si ses intentions n'étaient pas mauvaises, elle a laissé quand même une empreinte. Mais il n'y a aucune femme t'aime et te respecte ne devrait te faire porter ça si t'as pas envie.
Ouais, bien sûr, mais c'est aussi justement en écoutant tes podcasts, les podcasts d'autres personnes qui font à peu près le même travail que toi, l'ouverture d'esprit qu'il y a maintenant avec ma génération qui m'a fait aussi bien comprendre sûr. Que le consentement ça existe. Si t'as pas envie, c'est ok. Si t'as envie de faire ça, c'est ok. Si... Demande à ton partenaire, demande-lui s'il a vraiment envie, rassure-la. Et ça fait du bien de voir que, avec le témoignage d'autres hommes comme ça, que je suis pas aussi le seul à avoir vécu ce genre de choses.
Bien sûr.
Ça peut être dans les deux sens aussi. Et c'est vrai que ce genre de témoignage, c'est vrai que je l'ai souvent entendu de la part de certaines femmes et jamais de certains hommes.
Ah ouais, ça commence à se libérer doucement, mais t'as raison.
Ça commence à se libérer, c'est sûr. C'est plus rare, c'est sûr. Après, je pense que c'est vrai que ça doit être... Enfin, si on entend plus par les femmes, c'est que ça doit être plus fréquent chez les femmes, je pense. Je sais pas.
Après, c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans l'intimité des uns et des autres. Après, il y a aussi une conscientisation. Il y a beaucoup d'hommes qui, aujourd'hui, prennent conscience qu'effectivement, ils n'avaient pas forcément envie ou ils auraient préféré ne pas avoir de rapport sexuel cette fois-ci. Mais ça prend un peu plus de temps.
Ouais, c'est la génération sur l'ouverture d'esprit au niveau de la sexualité, c'est beau ce qui se passe. C'est important. C'est ce que nos parents, ils n'avaient pas forcément où ça a commencé. Et nous, on est en plein dedans. Et c'est super que ça s'ouvre et ça peut que aller de l'avant et faire du bien à tout le monde.
Ouais, complètement. T'as complètement raison. Et donc, tu termines cette relation avec cette jeune femme. Tu finis ton lycée. Et comment ça se passe? Parce que du coup, on arrive aujourd'hui à tes 21 ans. Comment se passe ta sexualité aujourd'hui?
Alors, beaucoup plus épanoui. Et j'ai découvert Tinder aussi, dans les grandes villes. C'est génial, j'adore. ça a été une révélation pour moi de rencontrer des femmes que j'aurais jamais rencontrées, de tous horizons, de tous milieux. Ça m'a aidé à prendre aussi confiance en moi, à être capable de... Ok, cette fille, elle me plaît, ben, c'est du virtuel, je m'en fous, je vais aller lui parler. Ça passe pas, c'est pas grave, on passe à quelqu'un d'autre.
Il y a un feeling comme ça.
Ouais, ben justement, il y a une fille, la première que j'ai vue là, pendant la première année d'études, que ben, on en a parlé, on s'est date. Physiquement, c'était photo non contractuelle, clairement, elle ressemblait pas du tout aux photos, elle me plaisait pas.
Okay.
Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, ok, elle te plaît pas, elle est quand même super cool, vas-y, fonce. Et ben, au final, on a couché ensemble pendant des mois et c'était trop cool. c'était trop bien. Même, justement, ça, c'est un truc qui est pas arrivé souvent, que j'entends pas souvent. Autre date Tinder, je la vois, on couche pas ensemble, mais au final, ben, c'est devenu une super amie.
Si,
à travers Tinder.
Ouais, carrément.
Et c'est super cool.
Ok, et donc t'as pu un peu aussi explorer des sexualités ou des pratiques différentes?
Alors, il y a un truc que j'ai essayé récemment, c'est pas vraiment une pratique sexuelle, c'est plus plaisir solitaire. Mm-hmm. Et ça, j'ai vraiment un message à faire passer, parce que c'est aussi tabou. Alors, je connais pas le nom exact, c'est vaginette? Non, ça,
ouais,
c'est pas
c'est ça
le
si,
mot.
Si, si,
si. Si, c'est ça. Alors, c'est incroyable. Il faut que ça se délie.
C'est toi qui l'as acheté ?
Ouais, ben ouais. En fait, j'avais vu ça passer, je crois, sur Internet ou un truc comme ça. J'étais allé au sex shop avec mes amis et je le vois. Et je savais ce que c'était. Et j'ai attendu un mois où j'avais de l'argent. J'ai dit, j'en ai rien à foutre, je vais l'acheter. J'ai essayé et c'est génial. Franchement, c'est génial.
Alors,
et
une vaginette ou c'est on appelle ça aussi un masturbateur. Donc le tien, il est quoi ? Il est manuel ?
Ouais, manuel, ouais.
Ah,
manuel.
Parce qu'il y en a qui sont électriques, hein, c'est pour ça que je te demande. Est-ce que tu peux peu raconter à quoi ça ressemble?
Alors, c'est un tube d'un diamètre d'à peu près 10 cm en plastique dur, et en fait, il y a une sorte de capuchon qu'on ouvre. Et après, ça dépend, moi j'ai pris le format vaginal, mais il y a un vagin moulé à l'intérieur, c'est des anneaux, c'est nervuré. Et en fait, bah, on se masturbe avec en serrant le pénis dedans, ouais. Et c'est vraiment bien. Et c'est justement ça, j'en parlais à des amis, j'aurais dit que j'avais acheté ça, ils me fait ouais, ça fait un peu loup de mer et tout. Mais c'est vrai que c'est ce genre de sextoy pour hommes hétéros, c'est pas démocratisé, c'est pas truc, c'est un peu tabou. Alors que c'est super, hein. Franchement, c'est super.
Ça existe des vaginettes où là on est à un level, parce que toi t'as quelque chose qui ressemble comme un peu à une grande canette de bière, si on doit faire un visuellement, mais il existe vraiment des trucs réalistes où t'as carrément une paire de fesses, la vulve, l'anus, enfin c'est la bouche, enfin t'as des trucs divers et variés.
C'est ça, c'est plus imagé, c'est un peu plus accessible aussi au niveau du prix, parce que je pense qu'au début c'était un peu plus cher quand même, et ça se démocratise un peu plus. Et après j'ai pas essayé des trucs plus big, genre des fesses, des trucs comme ça. Mm-hmm. Là c'est vrai que si on part dans... Enfin moi personnellement, genre d'avoir une partie du corps comme ça, taille réelle, c'est une autre dimension quand même, on change un peu.
C'est un peu comme les femmes, enfin les femmes ou même... les gens qui pratiquent la pénétration, mais c'est vrai quand t'achètes un sex toy, t'as deux écoles, t'as les gens qui ont envie d'avoir un objet phallique et puis d'autres qui veulent que ça ressemble vraiment à un pénis.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Y a un monde un peu entre chaque version, chaque panel, mais vraiment faut que les hommes ils testent. Hein. Vraiment, moi j'ai conseillé à tous mes amis, tous mes potes, j'aurais dit achetez, essayez, parce que vous ratez quelque chose. En fait, vous fermez l'esprit sur ça parce qu'il y a un tabou, alors que ben ça fait évoluer même le plaisir solitaire, quoi. Alors que bon, ça fait longtemps que pour les hommes, en tout cas, ça a pas vraiment changé, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on c'est tabou, et puis autant une nana célibataire, on va lui offrir ses copines vont se cotiser, vont lui offrir un beau sex toys. Autant je vois pas des mecs s'offrir entre eux, tu vois, ce genre de on va dire d'objets intimes à la maison, quoi.
C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais jamais trop réfléchi à ça. C'est une bonne piste de réflexion.
Du coup, offrez des vagines.
Donc, t'arrives aujourd'hui. Donc, Tinder, le plaisir solitaire un peu pimpé.
Ouais.
Et de quoi t'as envie aujourd'hui, Axel ?
De m'épanouir, c'est vrai, dans ma sexualité quand même. C'est vrai que je pense de plus en plus à l'anal.
Ouais.
Parce que puis j'ai entendu plein de choses sur ça. Ça aussi, ça se libère un peu plus.
Le plaisir prostatique, tu
parles. Le plaisir prostatique, ouais, okay. par ma partenaire. J'ai pas sauté le cap encore. Je pense que je suis pas prêt. Ouais. Genre, je crois que j'attends un peu la bonne personne. Mais pourquoi pas? Parce que bon, on se limite à un plaisir alors que ben on l'a ailleurs. Et même j'ai des amis qui sont gays, on en parle souvent et tout. Et c'est vrai que quand ils en parlent, ben ça donne envie, quoi. Enfin, pourquoi se restreindre? Et j'attends le bon moment d'être avec la bonne partenaire, que je me sens vraiment en confiance. Et j'essaierai, je pense, ouais.
Il y a d'autres pratiques comme ça que tu as envie d'essayer?
Si, aussi, ouais. Le shibari, j'adore. Enfin, okay. Je trouve ça magnifique. Le bondage. Ouais, le bondage. Un peu l'univers BDSM, c'est vrai que j'en entends un peu plus parler. Mm-hmm. Je connais pas très très bien. Mais déjà, j'ai une sexualité assez vanille, mais j'ai un côté un peu dominant dans mes relations, où j'ai vraiment ce truc de un peu prendre le pouvoir. Et même ça, c'était un peu un problème, je l'avais trop, et maintenant j'essaie de le lâcher un peu plus. De plus, moi, me faire dominer, de laisser ma partenaire prendre le dessus, parce que ça me bloquait, et ça, c'est important. Mais ouais, le BDSM, c'est un milieu qui a l'air super cool et bienveillant aussi en même temps.
Bien sûr. Il y a beaucoup de bienveillance et de respect dans le milieu BDSM, complètement.
C'est ça. Mais après, je pense que ça, c'est plus... je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai plus envie d'essayer à deux quand j'aurai une relation stable, mais avec peut-être d'autres personnes aussi.
D'accord. Et faire aussi des plans à plusieurs.
Ouais. Ouais, c'est vrai que les plans à plusieurs, ça m'intéresserait. Ouais,
t'as déjà un peu expérimenté à dos.
Ouais, ouais. J'ai oublié j'ai oublié d'en parler aussi de ça.
De quoi ?
Que j'ai fait mon premier plan à trois aussi à 13 ans.
Ah, je te faisais la blague, moi, parce que tu faisais ça avec tes potes à côté, mais j'avais pas compris qu'il y avait eu...
Ouais, mais j'ai aussi fait un premier plan à trois, ouais.
Ok, avec sa même bande d'amis qui était un peu...
Ouais, avec la même bande d'amis où on couchait tous à côté.
Ouais.
C'était avec ma copine de l'époque où j'ai fait mes premières expériences sexuelles. Et j'étais avec un de mes meilleurs potes et l'idée lui est passée par la tête. Mon meilleur pote était absolument chaud, elle trop chaud, moi pas du tout. Mais alors, pas du tout. Trop gentil comme je suis, j'ai cédé. Et franchement, c'était pas une expérience cool. J'ai pas kiffé, quoi. C'était plus, je me sentais plus forcé de le faire pour faire plaisir à ma copine que à moi, en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais plus réessayer l'expérience avec deux femmes, ou même un ami où on a une partenaire, pourquoi pas, et un vrai échange, quoi, un vrai truc où il y a un truc qui se passe, il y a une alchimie, où on se fait vraiment plaisir, où il y a vraiment une connexion, quoi. Pas comme ça à la volée où je me sentais un peu trop forcé, quoi. Ça, plus jamais.
Oui, et puis surtout que, effectivement, quand tu fais un plan à trois, si t'es pas déjà hyper en phase avec ta propre sexualité, c'est un peu compliqué d'être vraiment dans l'ouverture et dans le don de soi, quoi.
Ouais, totalement. Totalement, totalement.
Donc, je comprends. Donc, t'as pas mal de plans en perspective, c'est ça qui est cool.
Ouais, la sexualité, c'est important, ça va m'accompagner toute ma vie. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui m'anime, j'en parle souvent, je débat souvent avec ça, avec mes potes, on parle souvent de sexualité, de ce qui nous fait plaisir, de ce qu'on aimerait essayer, c'est une grande partie en vrai de mes grands sujets de discussion, et c'est toujours assez constructif, et j'ai envie de m'ouvrir l'esprit sur ça. Ouais.
C'est cool que t'en parles avec tes potes, est-ce que tu pourrais me donner toi ton... parce que vous avez la chance avec tes potes d'en parler, de débattre sur le sujet, de partager, tu vois... tes kinks, tes envies, tes fantasmes, etc. Quel regard t'as sur la génération un peu avant, donc les gens comme de ma génération qui ont une trentaine d'années, comment tu les perçois ?
Un peu moins, peut-être un peu moins ouvert, mm-hmm. pas dans le sens péjoratif, mais peut-être que on en parlait moins, du coup c'est quelque chose qui vient, à mon avis c'est quelque chose qui vient un peu plus tard pour eux et qui est plus tôt pour nous. Mmh. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ça vienne un peu tard comme ça. Alors que nous, enfin, je sais qu'avec mes potes hommes, femmes, on a la langue hyper déliée, quoi. Et on partage vraiment toutes nos expériences dans les détails, des trucs qui nous ont plu, qui nous ont pas plu. On se donne des conseils, surtout avec mon meilleur ami depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on a commencé notre vie sexuelle. On s'est éduqués tous les deux à se parler, à se raconter nos histoires, comment il faut faire, est-ce que toi t'as fait ça comme ça, et toi comme ça, ok faut faire comme ça, faut pas que tu fasses ça. Vraiment on s'est éduqués, on s'est élevés sexuellement, enfin on a élevé notre sexualité à deux avec lui. Et ça franchement c'est si quelqu'un a une amitié comme ça avec quelqu'un, c'est génial. Ça m'a apporté plein de bienfaisance dans mes relations sexuelles et humaines.
Ouais, c'est incroyable. Hein.
Ah, c'est génial. C'est ça, j'en suis fier de ça, de la relation que j'ai avec mon meilleur ami sur ça, parce que ça nous a vraiment aidé, quoi. Et même souvent on me dit ouais, t'es un mec bien. Toi t'es un mec bien. Toi t'es un mec gentil. Ouais, tu sais respecter tout. Alors que en soi, pour moi c'est normal. C'est juste que je me suis bien éduqué. J'ai su parler. On a su me parler. Et voilà, en fait, si juste la parole est déliée sur ça, on pourrait résoudre déjà un problème vis-à-vis des inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes sur ce genre de sujet, quoi.
C'est très juste ce que tu dis. Quelle place tu penses aura la sexualité dans ta vie plus tard ?
Quelle place ? Je pense que une grande place, et j'ai envie de la faire évoluer, c'est sûr. J'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. Mais je veux toujours que ça reste beau, que ça reste avec une vraie envie. Comme avant, je subis un peu des traumatismes par rapport à ça. J'ai envie que ça s'élève. J'ai toujours envie que ça soit une vraie envie. Pas de forçage, c'est qu'on parle, que ma sexualité elle s'épanouisse, que j'essaie des choses, juste simplement que je grandisse et que ma sexualité grandisse avec moi autant que moi je m'élève spirituellement et ma sexualité aussi.
Ouais, c'est super. Comme je sais que tu as préparé l'entretien, est-ce qu'il y a des choses sur ta petite liste que tu n'as pas encore dit ?
Ah, alors attends, je regarde. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour.
Et c'est cool. Et alors, du coup, si on a fait le tour, est-ce que tu pourras conclure et me donner le mot de la fin de cet entretien ?
Aimez-vous, faites-vous confiance et entourez-vous des gens que vous aimez et élevez-vous avec eux.
Je te remercie infiniment, Axel.
Merci, merci à toi.
Merci infiniment à Axel pour son authenticité, sa sincérité, son émotion. C'est un épisode qui a été très touchant et qui a fait un peu les montagnes russes en termes d'émotion. Je pense que vous l'avez vous-même senti et surtout vécu. N'hésitez pas à venir en discuter sur les réseaux sociaux, sur le Instagram ou le Facebook de On The Verge. Merci à vous pour votre fidélité et vos écoutes toujours plus nombreuses. Toujours pareil, n'hésitez pas à laisser un petit avis sympathique et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure façon de faire grandir ce podcast. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.